Deux ans de prison avec sursis requis dans l'affaire de la chute mortelle en escalade. C'était en avril 2024 à Orpierre. Une adolescente de 16 ans est décédée lors d'un stage organisé par le club alpin français de Roanne dans la Loire. Deux de ses représentants comparaissaient hier pour homicide involontaire. Un procès destiné à déterminer si oui ou non il y a eu des négligences dans l'encadrement alors que la jeune fille aurait utilisé une corde trop courte lors de l'ascension. Quatre grandes surfaces basalpines épinglées par la répression des fraudes, elles devront s'acquitter d'amendes. Hockey sur glace, assiste-t-on à une guerre des clubs dans le mercato? Le centre de formation des Rapaces de Gap devra se passer la saison prochaine d'Antonin Fine, parti pour les Diables Rouges de Briançon. Certains clubs récupèrent des jeunes sans avoir investi un seul centime, déclare le président des Rapaces de Gap, Jérôme Escalier. Le Japon, fil conducteur de la troisième édition du Salon de Livres à Digne-les-Bains. Les visiteurs pourront échanger ce week-end avec des auteurs comme Boris Cyrulnik, Gilles Kepel ou encore l'autrice de jeunesse, Suzy Morgenstern. Le procès d'un stage d'escalade qui vire au drame à la barre du tribunal correctionnel de Gap hier après-midi. Deux hommes, l'ancien président du club alpin français de Roanne dans la Loire et l'ancien responsable escalade, comparaissaient pour homicide involontaire. En avril 2024, alors qu'ils encadraient un stage à Orpierre, une adolescente de 16 ans avait chuté mortellement. Durant l'audience, Nino D'Albera, il s'agissait de déterminer s'il y a eu des négligences.
À la barre hier, l'ancien président du club alpin français de Roanne, Jean-François, et le responsable du stage escalade, Philippe. Leur déclaration a été suivie de près par les magistrats, mais aussi par la famille de Camille, cette jeune fille décédée en avril 2024 à Orpierre. L'audience s'ouvre et si Jean-François souhaite s'exprimer directement auprès de la famille, sa demande est rejetée. Ce n'est pas le moment, exprime le président du tribunal. S'ensuit alors un procès dans la méticulosité pour comprendre pourquoi Camille, ce jour-là, s'est retrouvée à escalader une voie avec une corde trop courte, précipitant au moment de la descente sa chute et sa mort. Depuis 5 jours, elle participait à ce stage d'escalade avec un groupe de 20 autres adolescents encadrés par 8 adultes. Le 18 avril, elle enchaîne les voies depuis 11h30. Le groupe est réparti sur 2 activités, une sur plusieurs longueurs avec des cordes de rappel de 50 mètres, l'autre sur des grandes voies avec des cordes de 80 mètres. Après la pause repas, Camille repart escalader avec Thaïs, son binôme, une jeune fille de 14 ans. Mais sur la grande voie, elles utilisent la mauvaise corde, celle de 50 mètres, trop courte. Et au bout, aucun nœud de sécurité qui aurait permis de bloquer cette corde qui file dans le système d'assurage. Rien pour retenir Camille, qui chute entre 10 et 15 mètres. Transportée à l'hôpital de Grenoble, elle décède 3 heures plus tard.
Un procès extrêmement détaillé. Le parquet a d'ailleurs convoqué un témoin, le directeur d'enquête secouriste au sein du PGHM de Briançon, pour déterminer s'il y avait eu des failles dans l'organisation et la surveillance des adolescents ce jour-là.
Pour les avocats des parties civiles, nul doute, il y a eu des erreurs successives déterminantes dans sa mort. Ce jour-là, aucun des 8 encadrants n'a vu que cette corde de 50 mètres, pratiquement de la même couleur que celle de 80, avait été utilisée. Quant aux consignes de sécurité, elles n'étaient pas rappelées avant la séance. Il y avait des rappels particuliers, précise Jean-François. Quand vous apprenez à conduire, on ne vous rappelle pas le code de la route, déclare-t-il à la barre. Quand je prends l'avion, on me donne toujours les consignes de sécurité, rétorque le président du tribunal. Autre défaillance, le nœud de sécurité pas contrôlé. Les deux encadrants admettent rapidement leur négligence, mais défendent leur approche pédagogique dans l'autonomie des adolescents. Quant aux cordes, elles ne se situaient pas au même endroit, mais personne pour contrôler leur gestion par un groupe d'ados. Votre organisation permettait-elle une veille sécuritaire, demande le président du tribunal. Je pense que oui, répond Jean-François. Une réponse qui suscite une onde de choc chez les parents. Le père qui pratiquait l'escalade avec Camille déclare à la barre que ce sont des négligences qui ont coûté la vie à sa fille. Si tout avait été fait en matière d'organisation, de formation, de surveillance et de gestion de matériel, Camille serait là aujourd'hui. Il demande une justice ferme à l'encontre des prévenus, de la vraie prison, comme il dit. Son épouse explique aujourd'hui ne plus pouvoir sortir de chez elle depuis la mort de sa fille par crainte de croiser des connaissances. Elle précise n'avoir reçu aucun message de compassion de la part des prévenus. Ces personnes sont responsables de sa mort, exprime-t-elle en montrant du doigt Jean-François et Philippe avant de lire la lettre d'une amie de Camille décrivant une jeune fille pleine de vie. Un moment qui suscitera l'émotion dans la salle, y compris chez les magistrats et les prévenus.
Merci Nino. De son côté, le parquet a donc requis 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Le délibéré sera rendu le 3 juillet prochain à 13h30. 4 grandes surfaces basalpines épinglées. Des manquements ont été constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Manquements quant à des indications de prix erronées pour l'exploitant de l'Intermarché de Digne-les-Bains et celui d'Auchan à Fort-Calquier. Des manquements relatifs à des défauts d'indication de prix de produits présentés à la vente pour les exploitants du Carrefour Market de Barcelonnette et de Super U assisteront. Tous devront s'acquérir d'une amende. La Nationale 202 à Saint-Julien-du-Verdon, rouverte plus tôt que prévu à la circulation. Après les intempéries d'il y a quelques semaines occasionnant un glissement de terrain, des écrans par bloc devaient être posés au niveau du lieu-dit La Brèche. Une opération menée depuis mardi qui a provoqué des coupures de circulation jusqu'à ce vendredi inclus. Au final, le chantier s'est déroulé plus vite que prévu. La circulation est donc déjà rétablie. Hockey sur glace, assiste-t-on à une guerre des clubs dans le mercato ? Pas de quoi faire sourire le président des Rapaces de Gap, Jérôme Escalier. Son centre de formation devra se passer la saison prochaine d'Antonin Fine. Formé à Gap, il progressera chez les Diables Rouges de Briançon. Mais Jérôme Escalier rappelle qu'un centre de formation est agréé par le ministère des Sports. Les investissements sont donc importants, 100 000 euros pour le club l'an passé, 150 000 euros la saison prochaine, un U20 par exemple, a 3 ans de formation et doit 1 an de contrat professionnel à son club. Un investissement qui doit donc payer, selon Jérôme Escalier. Il s'inquiète également de la progression de ces jeunes joueurs français dans ce climat.
Un gamin qui commence un processus de formation, pour moi, doit aller jusqu'au bout. Là, aujourd'hui, on fait le travail et certains clubs, aujourd'hui, récupèrent les jeunes sans avoir investi un seul centime. J'ai l'impression vraiment d'être, comme on dit un peu l'expression, le dindon de la farce. On fait le nécessaire pour développer nos jeunes, les former. Et puis quand ils sont quasi à maturité, ou pas tout à fait à maturité, mais déjà pas trop mauvais, les clubs viennent nous les piquer. Je trouve pas ça honnête de la part des clubs, déjà. On investit de l'argent et ces jeunes-là ne rendent pas le service qu'ils doivent rendre au club. Le gamin en lui-même, il est pas forcément à mettre en cause. Hein. C'est pas contre les gamins que j'en ai. C'est contre les clubs qui les démarchent. On est juste sur notre deuxième année du centre de formation. Notre centre de formation l'année dernière était perfectible. On a changé de coach, on a changé... Voilà, on n'a pas été à la hauteur non plus à 100% de ce qu'il fallait faire, donc on a nos torts aussi. Mais aujourd'hui, si un gamin vient dans notre centre de formation, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y aura un contrat moral réglementaire avec ces gamins-là. Ce qui est en péril, c'est qu'aujourd'hui, un centre de formation, on doit être obligatoirement entre 17 et 22 joueurs, et qu'aujourd'hui, avec les départs qu'on enregistre aujourd'hui sur d'autres clubs, on tombe à 14 joueurs. Si je trouve pas 3 joueurs rapidement là, et ben en fait le centre de formation, je le ferme. Et on va pas le fermer parce que des joueurs, on va en trouver, il y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ça nous demande énormément d'investissement et de temps et d'argent.
Des propos recueillis par Aurore Valori. Le Japon, fil conducteur de la 3e édition du Salon du Livre à Digne-les-Bains, dans la ville-préfecture littérature, rime avec Alexandra Davinel, et le Japon était un pays cher au cœur de l'exploratrice. Ce samedi et dimanche, une trentaine d'auteurs sont attendus. L'écrivain Didier Van Kovelert sera l'invité d'honneur. Les visiteurs pourront aussi échanger avec Boris Cyrulnik, Gilles Kepel ou encore l'autrice de jeunesse Suzy Morgenstern. Et parmi les nouveautés, cette année, le prix Alexandra Davinel revient sur le devant de la scène. Martine Thieblemont est déléguée à la culture.
On a remis sur pied le prix littéraire Alexandra Davinel, qui avait déjà existé dans la fin des années 80, début des années 90, et qui s'était arrêté. Donc on a voulu cette année le remettre, mais il est un peu différent par rapport, parce qu'à l'époque, c'était selon les directives, même si elle n'était plus là, c'était selon les directives d'Alexandra Davinel. Mais cette année, on a essayé de le moderniser un petit peu, puisqu'il va récompenser un roman graphique, et toujours sur le voyage, l'exploration, tous ces thèmes chers à Alexandra Davinel. Donc, la remise du prix aura lieu le samedi vers 11h30 midi, à la suite de l'inauguration du Salon du Livre.
Et les jeunes dinois qui ont aussi droit à leur festival, de 11 à 24 ans, ils ont rendez-vous ce samedi. Et sur la place Générale de Gaulle, FestiJeunes, ce sont plus de 50 jeunes qui se mobiliseront pour proposer des stands. Un festival donc pour les jeunes et organisé par des jeunes. Oriane Figre, étudiante à l'IUT de Digne-les-Bains.
On a plusieurs types d'activités. Il y a des rodéos mécaniques, machines à coups de poing, vélo smoothie, bubble foot, etc. Ça a été choisi par les jeunes. C'était des activités que eux voulaient faire. Du coup, on a surtout pris en compte leur avis à eux pour pouvoir mettre des animations comme ça. Et quels sont les temps forts de cette année? Le FestiJeune est pour le moment le plus gros événement de 2025. Donc pour le moment, on mise tout là-dessus. Après, on verra sur le reste de l'année. Et moi, je pense que ça va avoir un avenir parce que je pense que cette édition, tout le monde va demander que chaque année, ça se reproduise et ça pourra être un événement phare de Digne-les-Bains.
Des propos recueillis par Michel Bonnefoy. Notez que les animations sont prévues de 15h à 19h, puis de 21h à 1h du matin. Une soirée musicale en parallèle, les FestiJeux se tiendra sur le cours des arrêts pour les familles et les plus petits.
Retrouvez, réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à tout moment sur les réseaux sociaux.